Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien sur la route inconnue. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir quelqu'un que j'ai déjà reçu il y a quelques années pour un livre qu'il venait de faire paraître. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui, c'est Bruno Sourdin. Ce nom, forcément, va vous dire quelque chose. Bruno est né en 1950 à Pontorson. Je crois que c'est dans la baie du Mont-Saint-Michel, un lieu
tout à fait
extraordinaire. Bruno, vous êtes poète, critique littéraire et vous avez été journaliste. On est confrères, mais vous, dans un prestigieux quotidien qui s'appelle Ouest France, vous y avez travaillé comme chef d'édition pendant de très longues années. Et maintenant, vous consacrez quasi entièrement à la poésie, mais pas que, aussi à la méditation. Et votre dernier ouvrage, La Présence, paru aux éditions Le Contentieux, porte la marque d'une période, d'une sorte de parenthèse méditative, autant dans votre vie que dans votre œuvre. Alors, tout d'abord, on va reparler un peu de votre enfance. Moi, j'aime bien que les poètes me parlent de leur enfance parce que, d'une part, comme dirait l'autre, on ne guérit jamais de son enfance, mais beaucoup de choses, me semble-t-il, se décident. Est-ce que beaucoup de choses sont décidées concernant votre vie dans la baie du Mont-Saint-Michel autour des années 50 ?
Eh bien oui, en effet. Moi, je pense que ma passion pour la poésie vient certainement de ce lieu qui est un lieu unique. Quand on a vadrouillé dans ce pays extraordinaire de tangues, de ciel, de ciel gris et de boue grise, et puis surtout la merveille, ah oui, quoi, qui est extraordinaire. Ça, je crois que c'est un signe. C'est un signe qu'on garde toujours dans son cœur.
Ouais.
Toujours.
C'est une sorte de phare quand on est enfant.
Tout à fait. C'est un phare.
Ouais.
Et puis c'est une montagne, quoi. C'est une montagne spirituelle. Et moi, je m'intéresse à la poésie, mais je m'intéresse aussi à la spiritualité. Effectivement, mon nouveau livre, La Présence, est un exercice de spiritualité.
Oui.
On pourra en reparler
tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, bien évidemment. J'en reviens à l'enfance. Comment elle s'est déroulée ? Vous étiez un enfant plutôt, je ne sais pas, le bon copain qui jouait au foot, ou studieux, méditatif
Moi, j'ai été toujours, non pas un enfant solitaire, mais j'aimais quand même le repli sur soi.
Oui.
Ça, toujours, dans l'enfance, toujours. Bizarrement, j'ai pas gardé énormément de liens avec
les copains
d'autrefois. Puis il faut dire aussi que je suis allé très très tôt en sixième comme pensionnaire à Rennes, dans un établissement qui s'appelle Saint-Vincent et qui m'a beaucoup marqué aussi.
Un Normand en Bretagne, dites donc.
Un Normand en Bretagne.
Quand on sait le.
Voilà.
Hein, le. Mm. La question du Mont-Saint-Michel.
Oh, j'aime autant la Bretagne que la Normandie, oui. Mais je suis normand, clairement.
Est-ce que la poésie a fait une irruption assez tôt dans votre vie ? Est-ce qu'il y avait des livres à la maison, déjà ?
Il y avait des livres de poésie, pas beaucoup. Je sais que ma mère lisait « Paroles de Prévert ». C'est pas une originalité, mais enfin, ça veut dire quand même
oui,
que...
Quand même.
Oui, quand même, oui. Sinon... la poésie, je l'ai découvert sur les bancs de l'école. Très, très vite, dès la sixième. Mais, parce qu'on apprenait aussi beaucoup de la poésie par cœur.
Mais c'est un peu dommage d'avoir abandonné ça, parce qu'on peut encore, quand on a grandi, les avoir.
C'est extraordinaire. Moi, je me souviens de poèmes. Enfin, je me souvenais, je ne peux plus dire que je suis capable de les réciter maintenant, des poèmes de Le Comte de Lisle. Qu'est-ce que c'était beau.
Oui.
Qu'est-ce que c'était beau.
Alors ensuite, il y a l'adolescence, et là, je dis quand même, donc vous êtes né en 1950, c'est-à-dire que vous avez eu 18 ans en 68.
Oui.
C'est la grande époque, à partir de 66, de l'époque hippie, de la contre-culture. Les hippies ont été précédés de la Beat Generation, et je sais l'importance de la Beat Generation dans votre travail. Tout ça, vous l'avez vécu en direct, ou presque ?
Alors, la Beat Generation, effectivement, ce sont des écrivains qui ont commencé à publier dans les années 50.
Ouais.
Dans les années 50, c'est cette génération-là. Mais nous, on les a lus dans les années 70.
Oui.
Ils ont commencé à être publiés dans les années 70. Kerouac a été publié dans ces années-là. Alors moi, évidemment, ça a été
boom.
Le grand boom, le coup de foudre sur la route, on the road. Eh bien, j'ai fait comme Kerouac. Hein. Voilà.
Oui.
Ça m'a vraiment stimulé. Moi, ce que j'ai été fasciné chez lui, c'est sa prose spontanée qui est absolument extraordinaire, la pulsion magique qu'il y a dans ce, de la pulsion magique de l'instant qui monte à chaque instant, qu'il soit sur la route, qu'il soit en train d'écouter un concert de jazz ou qu'il soit... bon, voilà. Ça, c'est
Kerouac. La pulsation de vie, quoi.
Ouais, la pulsation de vie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et une autre pulsation aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est celle de son ami Allen Ginsberg. Oui. Alors lui, Kerouac, c'est le catholique.
Hein, très... Solitaire, catholique et fou, disait-il. Hein,
oui, tout à fait. Et Ginsberg, lui, c'est le poète juif, fou aussi, oui. Mais bouddhiste. Oui. Il se présentait lui-même comme à la fois juif et bouddhiste, oui. Et homosexuel. Oui. Alors moi, je suis ni homosexuel, ni bouddhiste, mais pour moi, sa poésie, Howl,
oui,
son grand texte, a eu un retentissement, pour moi, vraiment immense.
Ouais. On a du mal à mesurer aujourd'hui ce qu'était la révolution, en fait, de Howl.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'était une poésie qui n'était pas désincarnée, hein, qui était incarnée vraiment, hein, dans concrètement dans leur vie, et puis... qui n'était pas du tout académique, ouais. Absolument pas. Alors moi, ça m'a complètement fasciné. Alors comme à l'époque, je commençais à découvrir à cette époque un peu tout, les surréalistes, je me suis intéressé forcément, ouais, aux surréalistes, parce qu'en France, c'était ça, le surréalisme, hein, qui comptait pour beaucoup. Ouais. Mais moi, très très vite, je l'ai dépassé avec cette...
Cette aventure beat.
Cette aventure beat.
Ouais. Alors, cette aventure beat a vous amené ensuite, évidemment, vous avez emboîté le pas, comme vous le disiez, à Kerouac, vous êtes allé au Maroc, vous êtes allé en Inde. Oui. Il y a un superbe livre, moi, un livre que j'adore de vous, qui s'appelle Pondichéry,
oui.
Qui relate, enfin, ce sont des poèmes sur l'Inde, des poèmes écrits en Inde. Mmh. Et donc, ça, l'Inde, quand même, c'est aussi un truc énorme dans votre vie, une découverte, un choc terrible.
Ah oui, tout à fait, c'est ma deuxième patrie, hein, ouais. Presque, c'est une patrie du cœur, là, vraiment. Et je garde des contacts, d'ailleurs, avec beaucoup d'amis du Bengale, notamment Pradeep Choudhury, qui est décédé du Covid, malheureusement, à Calcutta. Une fin très triste. C'est un poète dont j'ai traduit un petit peu de textes pour les faire connaître et qui ont été pris par Zeno Bianu dans son anthologie sur la poésie indienne, ouais, des Védas à aujourd'hui.
Ouais.
Donc voilà, et j'ai d'autres amis aussi plus jeunes maintenant du Bengale.
Ouais. Alors vous portez aussi une attention, je le vois sur votre blog, à la musique indienne. Hein. Vous êtes un connaisseur de
tout
musique indienne, des ragas.
Tout à fait.
Ouais. Qu'est-ce que vous y trouvez finalement dans la musique indienne? Là aussi, on est dans une forme.
C'est une musique qui porte à la méditation, ouais. et moi j'ai besoin de ça, hein, oui, vraiment. Oui. Oui, oui, si, si. Et puis, pour rester dans le Bengale, dans le Bengale et des Bengalis, je me suis aussi beaucoup intéressé à la philosophie de Sri Aurobindo.
Oui. Alors, je sais qu'il y a deux pôles philosophiques dans votre vie, c'est Teilhard de Chardin et Sri Aurobindo.
Tout à fait.
Ce qui est amusant, parce que moi, j'ai eu un prof de philo dont c'était les deux passions. Donc, Aurobindo et Teilhard de Chardin. Il y a une vision commune, en fait, évolutive. Hein.
Voilà, c'est tout à fait. C'est une... l'un et l'autre, c'est une spiritualité du cosmos. Une philosophie ou une théologie pour Teilhard en marche, hein, qui ne s'arrête pas, Teilhard est un visionnaire de l'évolution, ouais, comme Aurobindo. Alors évidemment, chez Teilhard, on le sait bien, hein, c'est pour moi qui vais vous l'apprendre, ça débouche sur le point oméga, hein, c'est-à-dire le but ultime de cette longue marche de l'humanité. Une évolution constante vers une spiritualisation progressive de la matière qui, pour Teilhard, serait centrée sur la personne du Christ. Ouais. Alors, c'est pas ce que dit Aurobindo, bien sûr, mais ils ont quand même une démarche qui, par bien des côtés, ouais, se rejoint, parce que les traditions sont différentes, mais Aurobindo, lui, parle du supramental.
Supramental, hein. Ouais.
Voilà.
Tout ça nourrit votre œuvre. Et il y a sans doute forcément un peu de tout ça dans ce dernier livre, donc je voudrais que nous parlions maintenant, intitulé donc « La présence », c'est publié au Contentieux, et c'est très différent de ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Vous avez souvent une écriture fleuve, et là, c'est une écriture extrêmement resserrée, très économe d'adjectifs, de verbes, tout à fait verticale sur la page, et ma foi, on progresse page après page, et jour après jour, c'est une expérience d'écriture et de méditation qui a duré 40 jours. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Pourquoi 40 jours ?
À cause de Marc, à cause de l'évangéliste. Donc, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je m'intéresse beaucoup à l'évangile de Marc. Pourquoi Marc ? Parce que c'est l'inventeur d'un genre littéraire, hein, cet évangile. C'est quelqu'un qui, c'est un écrivain qui rapporte les faits à l'état brut, qui fait son reportage en direct. On a cette impression-là, qui ne gomme rien, hein, qui, quand il y a des choses désagréables, il le dit, qui écrit des instantanés, des récits sur le vif. Puis c'est une écriture pleine d'images, quoi. Une précision dans le détail est très très simple. Et une autre chose que j'aime beaucoup chez Marc, et c'est un prêtre qui très récemment nous l'a fait découvrir, il explique il montre que Marc a 6 ou 7 reprises, je ne sais plus exactement, il a dit 6, mais moi j'en ai compté 7 reprises, il parle d'un séjour dans le désert. Dès le prologue de son évangile, alors le prologue, il est très très simple, surtout qu'il a une écriture très très rapide, c'est le baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean. Bon, on connaît tout ça, mais, il a à peine dit que Jésus s'est fait baptiser, qu'il ajoute « aussitôt, l'Esprit pousse Jésus dans le désert ». Donc, aussitôt, il est à l'écart, et donc, à plusieurs reprises, à l'écart, ça veut dire sur une montagne, sur l'autre rive, dans un endroit désert. Et là, pour donc la première fois dont il parle de ça, c'est 40 jours. 40 jours dans le désert. Alors, je ne veux pas du tout me comparer à Jésus, mais je pense que le 40 est un chiffre important, c'est un chiffre symbolique qui dans la Bible, annonce une transformation.
Oui, oui, oui. C'est toujours une période d'ailleurs de 40 jours, comme ça, propice aux transformations. Le ramadan est 40 jours, le carême, enfin bref.
Voilà.
Alors vous avez souhaité donc... cette écriture de ce livre a coïncidé avec l'entrée dans votre vie de la pratique.
De la pratique de la méditation.
De la méditation. Comment ça s'est passé ?
Alors, de la méditation, c'est... Alors, on peut faire une différence entre la méditation qui vient de l'Inde et la prière qu'on connaît, nous. Et on connaît, nous aussi, la prière silencieuse. Hein, ce n'est pas uniquement la prière de demande chez nous. Il y a aussi la prière silencieuse, c'est-à-dire... C'est un peu comparable, si on peut comment se centrer sur le nom de
Jésus
ou de Abba, de hein, bon, d'accord. Et là donc la méditation qui était la mienne, c'était pas du tout celle-là, c'était une méditation qui vient de l'Inde sur les chakras, les 7 chakras du corps. Voilà.
Ah, d'où l'expérience. Je comprends mieux certains passages du livre, voilà. Qui est fascinant. Moi, ce livre m'a vraiment fasciné. Donc, je vous lis depuis longtemps. Et là, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce qu'incontestablement, il s'est vraiment passé des choses pour vous pendant cette période. Donc, c'est alors, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé. Cette petite citation préliminaire que vous avez été chercher chez Einstein. Alors, je cite la dernière phrase simplement. Nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible.
Ah oui.
Ça, c'est...
Alors,
vous l'éclairez, ça hein?
Là, oui. La citation, elle est venue après coup, à la fin.
Ah oui.
À la fin. Elle n'avait apparemment aucun rapport avec ces méditations que j'ai entreprises. Il s'avère que j'ai fait un voyage sur la côte belge, dans une station qui s'appelle De Coq, De Haan, De Haan, De Haan, où Einstein s'est réfugié à l'époque des nazis, quoi, avant d'émigrer aux États-Unis. Et donc, à cette occasion-là, je me suis intéressé de plus près à Einstein, qui est quelqu'un d'extrêmement fabuleux, et j'ai trouvé cette citation-là qui, moi, me parlait énormément et qui pour moi, c'était évident que ça devait ouvrir le recueil.
Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous avez quand même fait, on peut dire, une expérience spirituelle profonde et mystique. En tout cas, c'est ce qui semble transparaître de ce livre. Je cite le jour 3. « Cela se met à trembler, cela se met à pleurer, sans mots, à pleurer. » Et tout de suite, j'ai pensé à cette petite phrase de Seigyo, moine japonais, poète zen. « Ce que c'est, au fond, je l'ignore. » Mais pourtant, de gratitude, mes larmes coulent. Ce que c'est, au fond, je l'ignore. Pourtant, de gratitude, mes larmes coulent. Alors, c'est pareil, c'est cela. Il y a quelque chose qui se produit.
Voilà, c'est ça. Méditer, c'est... La méditation que j'essaye de pratiquer, c'est descendre dans sa vérité, quoi. Dans sa vérité intime, la plus secrète. C'est un voyage intérieur,
oui.
En quelque sorte.
On a vraiment le sentiment de voyager avec
voilà.
Vous.
Voilà. Mais c'est aussi une épreuve, parce que c'est un combat, quoi, comme le combat avec le combat de Jacob avec l'ange.
Oui. Hein, bon.
C'est un effort quotidien, régulier. Il faut toujours se remettre en question, se renouveler. Et il faut faire ça dans la durée. Moi, je pense que... Comment dirais-je? Il faut apprendre à se détacher, c'est important, se libérer du souci du temps qui passe, quoi.
Oui.
Se recentrer sur cette présence, ici et maintenant. Il y a un petit livre que j'ai découvert après coup aussi, mais bon, du moine qui fait des haïkus, mais qui est zen, qui s'appelle...
Ryokan, peut-être, non ou
non, non, c'est non, pas Ryokan, c'est Dogen.
Dogen.
Dogen. La présence au monde.
Oui.
La présence, être présent au monde.
Oui.
Voilà.
Il se passe des choses extraordinaires, quand même. Hein. Il y a des moments... par exemple, vous dites, cela submerge, arrache, déchire, un souffle, une trace, presque rien. Ce sont quand même des expériences assez fortes. Vous avez eu le sentiment de passer par, comme ça, des états de conscience
oui.
différents.
Et c'est à la fois presque rien et beaucoup de choses.
Oui.
C'est l'immensité, à la fois le rien et l'immensité. Oui, ça c'est une expérience du vide, en fait,
ouais.
qui se transforme, qui peut se transformer en joie aussi.
Oui.
Hein, parce que c'est... Moi, j'ai pas eu de sentiment d'angoisse, mais on peut en avoir.
Ouais. Oui. Sentiment océanique, on peut parler d'un sentiment
océanique. On peut dire ça.
Et ouais.
Océanique, alors à la fois océanique et aussi de la fragilité du monde.
Oui.
Je crois qu'on est toujours en permanence... entre les deux.
Oui. Alors comment c'est-à-dire que vous écriviez tous les jours aussi après
oui,
la méditation,
oui, oui.
quelque chose qui.
Oui. Des fois même pendant, parce que des fois pendant, je me disais ah ça il faut que je garde ça, faut que je oui. sois sûr de pas l'oublier.
D'accord.
Parce que des fois j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein, alors donc il y a des choses que je voulais pas oublier.
Oui. Alors, pour qui connaît aussi un peu la spiritualité indienne, à un moment, tu es cela. Alors, moi, j'ai pensé à « je suis cela », « tatoua massi ».
Oui, c'est ça, c'est hein, exactement ça, oui.
C'est,
oui,
voilà.
Oui.
Donc,
oui,
finalement,
oui.
L'Inde ne vous a jamais quitté, elle vous rattrape.
Non, tout à fait.
Ouais.
Mais par contre, depuis cette expérience-là, je me suis beaucoup intéressé à nouveau à une méditation chrétienne,
oui.
Là, cette fois-ci. Là.
Oui. Vous y êtes revenu par ça, en fait, finalement.
Par des rencontres, on peut dire ça comme ça, par une rencontre, par la lecture de Teilhard, quoi.
Ouais. Hein,
bon sang. Moi, à chaque fois que je le dis toujours, mais à chaque fois que j'ai quelque chose de nouveau dans ma vie qui va me faire changer de direction. Bizarrement ou pas bizarrement, il y a Teilhard qui est là, il y a une réflexion de Teilhard qui est là, voilà,
ouais.
Ou une présence de Teilhard qui est là.
Ouais. Vous fréquentez d'ailleurs, je crois, des colloques teilhardiens.
Oui,
hein,
tout à fait. Tout à fait. Je l'ai fait à Saint-Jacques-de-la-Mer en Bretagne, mais aussi dans la région lilloise aussi.
Ouais.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, on parlait tout à l'heure, vous parliez de Dogen et d'haïku. Vous aussi, hein, vous pratiquez également le haïku. C'est encore aussi une forme d'assèse de la parole.
Hein. Alors, le haïku, vous faites bien d'en parler, parce que moi, je suis venu à la spiritualité par là.
Oui.
Et sans le savoir, d'ailleurs, en fait. C'est en lisant toujours, je reviens à Kerouac.
Ben oui.
Kerouac, il y a Sur la route, mais il y a aussi son livre magnifique qui s'appelle Les clochards célestes, The Dharma Bombs, en anglais. C'est la rencontre de Kerouac et de Gary Snyder.
Ouais.
Hein? Et donc, c'est là que je découvre le haïku. Moi, je ne connaissais pas le haïku. Hein, ils partent dans la montagne, tous les deux, et Snyder lui apprend à faire des haïkus. Et Kerouac en fait, je me suis dit en disant ça, mais c'est ce qu'il faut que je fasse, quoi. Et mes premiers haïkus, je les ai publiés dans un livre qui s'appelle Syncope, qui a été publié en 81, donc il y a déjà un bout de temps. Voilà. Et après, je me suis intéressé au haïku, à Matsuo Basho, enfin les haïjin qu'on connaît, hein, les grands haïjin.
Ouais.
Mais au départ, je connaissais que Kerouac.
Ouais.
Et Snyder.
Voilà, il y a un fil d'or entre le Kerouac, le Japon, l'Inde et
La lecture des poètes chinois aussi, hein,
ouais.
qui joue à ça, qui joue dans cette direction-là.
Bien évidemment. Merci Bruno. Je rappelle le titre de votre livre, La Présence, c'est aux éditions Le Contentieux. Le Contentieux, c'est 7 rue des Gardénias, 31100 Toulouse. On peut évidemment, je suppose en tout cas, le commander à son libraire. Et je crois qu'il y a un livre à paraître aussi aux éditions Gros Texte prochainement, Bruno.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est pour quand ça?
Avant la fin de l'année.
Avant la fin de l'année.
Les deux devaient paraître en même temps, mais j'ai voulu un peu dissocier pour qu'ils se...
Chacun chance.
Voilà, chacun sa chance. Parce que ça sera très différent de la présence.
De merci beaucoup, Bruno Sournant. Laisse passer un peu de musique, puis je lirai des passages de ce livre mystérieux, La Présence. La présence de Bruno Sourdin. Jour 1. Perçois le bonheur fragile, cette joie, perçois cette heure joyeuse, cette joie en marche, cette joie, surtout cette joie. Jour 2. J'avais hâte d'effacer le monde. Dehors. Oui, si fragile dans la lumière. Dehors, à tout vent. Dehors, dans l'air glacé. Jour 3. Cela se met à trembler. cela se met à pleurer. Sans mots. Sans mots. À pleurer. Jour 4. Laisse entrer le ciel. Laisse. Laisse. Jour 5. Cela submerge, arrache, déchire un souffle, une trace, presque rien. Jour 6. Il y a quelque chose qui mâche, qui mâche, qui répète. Jour 7. En moi, sans moi, en moi, sans moi, en moi, sans moi, en moi, hors de moi, sans moi, sans cesse cela. Jour 8. Tu es cela. La joie insensée, hors du temps. Cela, ici et là, ici et là. Voilà, c'était un court extrait de la présence. J'en suis au jour 8. Il vous en reste 32 à découvrir. Bruno Sourd dans la présence aux éditions Le Contentieux, dont je vous redonne l'adresse. Édition Le Contentieux, 7 rue des Gardénias, 31 100, Toulouse. C'était un extrait d'une pièce de Fulbert de Chartres. J'ai le grand plaisir aujourd'hui, eh bien, de vous présenter une nouvelle plume, une nouvelle voix qui vous accompagnera tous les mois sur la route inconnue. Il s'agit d'un poète qui, lui, n'est pas du tout inconnu, Georges Catalot, poète depuis de nombreuses années, revuiste, chroniqueur, quelqu'un qui a participé à de nombreuses aventures poétiques, et notamment la fameuse revue de la Nouvelle Tour de Feu. Mais je préfère tout simplement que Georges Catalot se présente lui-même et qu'il nous donne un peu ses intentions pour les mois à venir.
Merci Christophe, merci tout d'abord de m'accueillir pour cette nouvelle chronique auprès d'autres critiques et poètes que je connais et que j'apprécie. Voilà, j'ai souhaité trouver un fil rouge au fur et à mesure des mois à venir en présentant cette chronique qui va s'intituler « Poète absent et poète présent » avec un lien chaque fois entre un poète disparu et un poète vivant. Voilà, pour cette première chronique inaugurale, on va parler de Michel Baglin et de Thierry Radière, dans le lien et l'ouverture aux autres, comme on va le voir. Voilà, je ne vais pas lire des extraits de leurs poèmes, mais en revanche, enfin, donner des références pour aller vers leurs ouvrages, ce qui est le plus important. Voilà, on va commencer peut-être par une parenthèse ouvrante et fermante. Qu'est-ce qu'un poète ? Un poète est un homme, disait Jean Rousselot, est un homme ou une femme qui prend ses plaisirs pour des réalités. Voilà, Michel Baglin, 1950-2019. Un peu comme pour les tribus indiennes en voie de disparition, on pourrait évoquer la tribu des poètes Omilami, qui aurait tendance à voir ses rangs s'éclaircir d'année en année. Michel Baglin faisait partie de cette tribu. Disséminé sur un territoire sans frontières, hormis celle de l'amitié et du compagnonnage, les autres membres de cette tribu savaient reconnaître en Michel un sage. Ainsi, sans qu'il l'ait vraiment cherché ou voulu, son répertoire à Michel, son répertoire d'adresse électronique comptait plus de 3000 noms. Généreux, fraternel, fidèle, dévoué, altruiste, etc., etc., voici quelques-uns des qualificatifs utilisés par les proches de Michel. que ce soit de son vivant ou après son décès. De partout surgissent d'authentiques témoignages attestant que nous avons affaire à un personnage hors du commun. Partout où il allait, Michel était connu et reconnu. Très apprécié pour ses qualités humaines, il était toujours prêt à conseiller, à rendre service, à écouter. Doté d'une endurance à toute épreuve et d'une hallucinante capacité de travail, il a toujours su demeurer ferme dans ses choix éthiques et poétiques. Son métier de journaliste lui a servi dans son vécu quotidien pour une prise en compte rapide des éléments d'une réalité fragmentée. Oui, gardons-nous d'oublier Michel Baglin, le poète de la tribu des Omi Lami. Et voici trois références. D'abord du site Texture les amis de Michel Baglin, http://textureamb, tout se tient, .over-blog.com. Et également édition, sans accent, sans rien, édition au pluriel, .rhubarbe, R-H-U-B-A-R-B-E, @ La Poste, en un seul mot, .net de l'ami Alain Kéouès qui a publié 7 de ses livres. Voilà. Et peut-être, oui, Jackie Baglin qui dispose des ouvrages non épuisés de Michel. Jackie, J-A-C-K-I-E, point, Baglin, B-A-G-L-I-N, 1, @ orange.fr. Et maintenant, présentation assez rapide également de Thierry Radière, né en 1963. Déjà auteur d'une œuvre abondante avec des poèmes, des récits, des nouvelles, des romans, Thierry Radière vient de faire paraître deux livres importants. Le premier est sorti début 2021 aux éditions de la Table Ronde, excusez du peu, sous le titre de « Entre midi et minuit ». Avec ce fort ouvrage de plus de 300 pages, c'est une sorte de consécration qui est offerte à cet excellent poète qui demeure fidèle à sa voix efficace et discrète. Ce livre regroupe des poèmes ventilés en trois parties couvrant les années 2017-2019. Dans les poèmes totémiques, tous dédiés, il est facile de suivre le parcours poétique de Radière en remontant à ses sources, à ses amitiés et à quelques auteurs fétiches, Follin, Pessoa, Brotigan, ou à des poètes du quotidien, François de Cornière, Lahu, etc. Lecteur boulimique, Radière sait faire la part des choses et se mettre à l'écoute des poètes qui lui parlent. Les deux autres parties du livre sont consacrées à la vue et aux confidences familiales. Entre fiction et réalité, entre illusion et réel, Radière poursuit son périple poétique en nous invitant à déambuler paisiblement dans ses jardins. Puis il se laisse aller à des confidences, une fillette malade, un album photo de sa mère, une insomnie, les dessins de ses enfants. Souhaitons que ce poète nous livre entre émotion et rationalité le second versant de l'ensemble qui, à la suite de « Entre midi et minuit », pourrait s'intituler « Entre minuit et midi ». Sur Thierry Radière, dont il vient de faire paraître un second livre intitulé « Abécédaire poétique » aux éditions Gros Texte. Et on découvre là un ensemble de 96 poèmes écrits avec une amorce identique, à savoir « Il suffit que je relise quelques vers de X, Y, Z et je ». Et tous les poèmes commencent ainsi. « Cette attention portée aux écrits des autres devient chose rare et précieuse en ces temps d'égotisme exacerbé. » Tous ces poètes évoqués dans ces deux livres constituent un cadastre précis des influences qui ont marqué Radière, influences dont il a su se détacher pour créer une œuvre originale et très personnelle. Voilà, le premier livre se trouve dans toutes les bonnes librairies, aux éditions de la Table Ronde. Le second peut se commander auprès d'Yves Artufel aux adresses suivantes, Fonfourane, 05 380 Châteauroux-les-Alpes ou gros.texte@laposte.net. Voilà. Et on va finir avec une parenthèse sur toujours le poète, même de Jean Rousselot, toujours, qu'on ferait bien aussi de relire et de redécouvrir, qui disait même si tout est foutu, les dés pipés, les cartes truquées, même si nous ne savons pas où nous allons, le poète ne se résigne pas. Voilà, merci.
Je sens que nous allons passer de bons moments en compagnie de Georges Catalot, qui est un poète ayant de la mémoire, qui nous proposera donc pendant quelques temps encore de découvrir en parallèle un poète du passé, un poète qui n'est plus là et un poète qui, lui, est là. On va rejoindre sans plus tarder notre ami Jacques Morin, directeur de publication de la revue Des Charges. Et je m'empresse de vous préciser que dans 15 jours, vous aurez le plaisir d'entendre Jacques Morin, Claude Verset, Georges Catalot et Louis Dubos nous parler de la revue Des Charges à l'occasion des 40 ans de ce grand magazine de poésie. Jacques Morin.
Revue du mois audio numéro 52, cette fois-ci donc la revue Cabaret numéro 38. Revue Cabaret continue son chemin inexorablement et ne va pas tarder à atteindre ses 10 ans d'âge, ce qui est remarquable. Toujours le même parti pris du petit format des 20 pages, couverture comprise, et d'un choix uniquement féminin. Cette livraison-ci ne fait pas exception à la règle. Simplement, le thème est un peu différent par rapport à l'habitude avec les Italiennes. Préfacé cette fois directement par le revuiste en chef Alain Crozier, qui nous rappelle en cuisine, voyage et souvenirs de Venise sous le titre « Fable de la botte », il suffit que les participantes soient d'origine italienne pour entrer dans le numéro. En tout cas, je connaissais à une exception près aucune des auteurs. Flora Botta pour commencer. Qu'importe si tout dehors défile sans nous. Chiara Pastorini qui chante la Ligurie, mère des poètes, fille de personne. Barbara Savournin qui donne une plaisante histoire qui aurait pu s'apparenter à un récit policier et qui se termine bien ou mal, on ne sait pas vraiment. Lorenzo Foltran, l'ex-che homo du numéro qui donne un Mare Nostrum. Parme Cerizet donne trois poèmes où elle évoque la Calabre, Venise et Parme, comme son prénom l'indique. Valentina Casadei donne un texte fantastique où Lucio, son héros, devient tout bonnement l'océan entre rêve et miracle. Antonella Hey Portulecci, dans un poème vertical, Le monde est mon poulailler. Enfin, Anne Paulet, avec Face à la mer, qui boucle le fascicule, où l'on voit que ce qui domine demeure la lumière et la mer. En couverture, Jean-Marc Couvet, souvent adepte du jeu de mots, à la fois auteur et traducteur, qui montre ici en outre ses talents d'illustrateur. Le numéro 3 euros, toujours très bon marché, l'abonnement 4 numéros 12 euros, les timbres augmentent, 31 rue Lamartine, 71 800, La Clayette, qu'on doit prononcer La Clette. À la prochaine fois.
C'était Ben Harper, un morceau intitulé « Montréal ». Notre ami Louis Dubot, poète, éditeur à l'enseigne du Dé Bleu, devait être parmi nous aujourd'hui, mais il n'a pas pu se libérer. En revanche, j'ai une excellente nouvelle à vous donner à présent. Le 13e prix Loin du marketing a été attribué le 15 août dernier à Louis Dubot pour l'ensemble de son œuvre d'éditeur et d'auteur. Voilà ce que dit Gérard Lambert-Hulman du prix Loin du marketing. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'un prix voué à honorer un écrivain dont les éditeurs n'ont pas les moyens de se payer placards en chaîne dans la presse People, attaché de presse aux jolies menottes, cocktail au tam-tam et dîner de connivence, renvoi d'ascenseur et de monte-charge, et donc des auteurs ou des éditeurs qui ont peu de chance de voir leur livre chroniqué dans les médias, sauf bien évidemment un Radio Grand Ciel sur la route inconnu. S'il en est un qui mérite ce prix Loin du marketing, c'est bien Louis Dubot, édité pendant 35 ans sous l'enseigne du Dé Bleu, puis de l'Idée Bleue de la poésie, rien que de la poésie, et faire ainsi connaître bon nombre des plus belles plumes de la poésie contemporaine, c'était déjà admirable. Prendre soi-même la plume pour régaler quelques curieux fouineurs en librairie d'une poésie joliment charpentée et d'une prose aussi solide qu'amusée, ça a été le pompon. Je suis tout à fait d'accord avec Gérard Lambert-Hulman. Vous aurez grand profit à relire l'œuvre de notre ami Louis Dubot. Voici quelques livres à ne pas manquer. L'île d'elle, qui était sortie tout d'abord aux éditions du Dé Bleu et que Tarabuste a réédité, mais aussi L'orgueil démesuré du soutier chez Ficelle, Lettre d'un éditeur de poésie à un poète en quête d'éditeur, au Ginko, On a mis papy dans le coffre de la voiture, aux éditions Le bruit des autres, Tout ça à cause du cochon au petit rameur, et enfin aux éditions de La Mèche Lente, Diogène ou La tête entre les genoux. On écoute encore Ben Harper, avant de retrouver notre ami Jean-Claude Touzeille.
Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelques poèmes d'Henri Pichette. Henri Pichette est un poète du XXe siècle, c'est date 1924 jusqu'à 2000. C'est aussi un dramaturge et un cinéaste. On connaît ses quelques titres à poèmes. En 47, Les Épiphanies en 48, Ode à chacun, 1961, et puis Les Dites Lits du Rouge-Gorge, après sa mort en 2005. Je vous parlerai un peu plus de ce livre-là. Alors on y va. Dimanche, un arbre est là-bas qui vous fait un geste. Le temps d'y courir, il vous donne un fruit. Un peu de soleil brûle sous la veste, l'ombre d'un ruisseau m'arrive à doux bruit. Un million de cieux, foin des passeports, je ne veux rêver qu'à la force verte, aux oiseaux élus dont l'âme a pris corps. Sur la liberté, ma bouche est ouverte. Parmi les odes, ode à la neige. La légère, candide, capricieuse, tourbillonnante, ouatée, poudreuse neige, dont j'aime la lente, lente chute. Voilà, et puis je vous parlais de ce livre un peu extraordinaire qui est un livre posthume, puisqu'il est paru 5 ans après sa mort. Il se trouve que Pichette avait travaillé de manière très fouillée, très scientifique, sur le rouge-gorge, en consultant une infinité de livres, en observant évidemment l'oiseau, et ça l'a beaucoup, beaucoup inspiré, au point que On a retrouvé un manuscrit sur sa table de travail, après sa mort, où il y avait donc les fameux dites lits du rouge-gorge. Voici un exemple. Petit propriétaire à la cravate rouge. Il chante contre l'intrus, il se rengorge, se redresse, il se crête, se hérisse, il se campe, torse bombé, tant le cœur lui bat que le sang lui bout. Ses yeux flamboient, son corps saccade, et plus il mélodie, plus il furibonde. Gare la bagarre, on pourrait bien se voler grièvement dans les plumes. Quelques noms de rouge-gorge selon les régions. En Picardie, on l'appelle le frileux. En Haute-Marne, la rubeline. En Normandie, c'est un mot presque pareil, le robin. En Anjou, la gadille. Et en Limousin, le pampouti. Encore un poème extrait de ce livre, donc. Juste avant l'aube, quand les oiseaux sortent du sommeil, et puis à l'heure où monte à l'horizon l'ostensoir du soleil, aussi lorsque, lente, la nuit descend qui se met à la brune, et que va s'élever comme une hostie au ciel la lune, toi, rouge-gorge, tu témoignes, en susurrant, modulant, ramageant, tu litanises à l'infini exquisément. Tu ciselles ta kyrielle de trille à l'extrême de l'aigu. Les microsons par mille échappent à l'oreille. Les gazouillerais-tu pour Dieu seul? Voilà, c'est publié chez Gallimard. Et puis pour rebondir avec un rouge-gorge, je vous propose celui-ci, qui s'intitule « Filiation », extrait de Léo Arrêt sur image, à l'index. Le rouge-gorge est venu voir ce que je fabriquais dans le jardin. D'abord, il n'a rien dit, mais son œil s'est agrandi à chaque coup de bêche. Il s'est approché sans crainte pour avaler deux ou trois vers de terre. Il m'a salué d'un coup d'aile avant de repartir sous les feuillages. Et j'ai cru comprendre dans ses qu'il avait bien connu mon père. Voilà. Je vous dis à bientôt. On vous parlera d'une nouvelle qui nous a tous assommés. Notre ami Alain Boudet, poète de Donner à voir, est parti, nous laissant uniquement ses poèmes.
Et comme vient si justement de le dire Jean-Claude Touzet, c'est une grande perte que le décès d'Alain Boudet le 24 août dernier. Alain Boudet, poète, créateur des éditions Donner à voir, Alain que nous avons plusieurs fois accueilli sur la route inconnue, qui a toujours répondu avec une très grande courtoisie, grande patience à nos questions. Celui qu'on a donc connu comme éditeur fut aussi un poète excellent, très discret, trop discret. C'est la raison pour laquelle, avant que nous lui consacrions une émission probablement au mois d'octobre, au mois de novembre, j'ai décidé de vous lire ce poème, enfin ces trois poèmes, extraits d'un recueil intitulé « Les mots des mois » paru aux éditions Donner à voir. Le jour qui marche. Grave sur la pierre l'ombre douce des heures, dénonce le miracle d'une prairie de poche, d'un lac de neige, attendant le secret des ruisseaux. Même si tu fermes les yeux, la montagne est là, témoin du soleil. Montagne au soir, quand le soleil encore grave sur les sommets les reculs bleus de la lumière, nous écoutons venir le silence, les éboulis se taisent et la fatigue éponge les derniers bruits. Il est toujours trop tard au balancier des feuilles, la nuit prend de l'avance, mais quand on va vers les jours sombres, les arbres s'allègent de leur poids d'ombre, confiant des mains au ciel pour soupeser l'hiver. Le soleil ce matin inonde le brouillard, et les arbres se taisent, et c'est peut-être ainsi que tout commence. Des poèmes d'Alain Boudet, extraits du livre Les mots des mois, publié aux éditions Donner à voir. Nous aurons l'occasion, je l'ai dit il y a quelques secondes, de reparler d'Alain Boudet sur la route inconnue, probablement au mois d'octobre. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines sur la route inconnue.
Tu vas mourir, tu vas t'éteindre comme une lampe de chevet. Quand le matin commence à poindre, quand le bouquin est achevé, dors en paix, pépé. Tu vas abandonner ton souffle, les taches rousses de tes mains, et repasser sans tes pantoufles le seuil du monde des humains. Dors en paix, pépé. Je ne m'en fais pas pour ton âme, tu n'as à craindre nulle flamme, bien que tu te sois dit sans Dieu. Tu peux sans faire de grimaces regarder le soleil en face quand tu auras fermé les yeux. Un peu de toi s'en va descendre, mais tout le reste va monter. Quitter cette vallée de cendres pour une planète d'été. Dors en paix, pépé. À belles dents, tu déjeunes. Le soir, tu soupes de peu, la vie ça t'aiguise en jeune, puis ça te déguise en vieux. Vas-tu connaître la recette d'un repas qui coûte moins cher? Et vas-tu faire la conquête d'une beauté hors de la chair? Dors en paix, pépé. Où tu vas, je ne puis t'atteindre. Suis-moi si tu peux où je vais. Déjà le jour commence à poindre, j'éteins ta lampe de chevet. Dors en paix, pépé. Dors en paix. Ma sœur âme, ma sœur, amante religieuse, je suis un osseur, sois-moi miséricordieuse. et mousse mes noirceurs. Au bain de ta voix, fais-moi prendre l'ascenseur une ultime fois. Ne me descends qu'au dernier étage des étoiles, là où les murs sont mûrs pour risser les voiles. Nous y vivrons tous deux, embarrés de douceur, sous la main de Dieu, comme sous la main d'un masseur. Nous y vivrons tous deux, scintillant de douceur, sous la main de Dieu, comme sous la main de ma sœur, ma sœur. Dansez sur moi, dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent. Tel un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Hé hé hé, oh mais, ça y est. Dansez sur moi le soir de mes funérailles. Que la vie soit feu d'artifice et la mort un feu de paille. Un champ de cygnes s'est éteint, mais un autre a casser l'œuf sous un saphir, en vrai saphir, miroir de mon sillon neuf. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi.